VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, les cloches des églises ont sonné hier pour réclamer la fin du mandat de Kabila.
Au Togo, la coalition de l'opposition exhorte les leaders de la CDAO à faire accepter l'alternance à Faure Gnassingbé.
Au Tchad, projet controversé de réformes institutionnelles et constitutionnelles.
Au Cameroun, comparution aujourd'hui de l'écrivain Patrice Ngana pour apologie de crimes et menaces.
Suspension de l'aide des États-Unis à une bonne partie des forces armées somaliennes.
Washington accuse l'Iran d'avoir fabriqué le missile tiré depuis le Yémen sur l'Arabie Saoudite par des rebelles chiites houthis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, les cloches des églises ont sonné hier pour réclamer la fin du mandat de Joseph Kabila. Elles consacraient le début d'une campagne lancée par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Des détails avec Eddie Isongo.
21h à Kinshasa, les cloches des églises catholiques retentissent. C'est la deuxième fois de la soirée et des coups de sifflet, des klaxons et autres vacarmes couvrent la ville comme l'avaient demandé les évêques catholiques. Chaque jeudi à 18h puis 21h locale, les cloches doivent sonner pendant une quinzaine de minutes pour exiger l'application de l'accord et la tenue des élections. La CENCO, médiatrice au dialogue politique, estime que le président Joseph Kabila a violé l'accord de la Saint-Sylvestre qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Les prélats ont dans leur message appelé à des manifestations plus indicatives et déterminantes. La présidentielle, plusieurs fois reportée, devrait, selon la CNI, avoir lieu le 23 décembre 2018.
Projet de réforme institutionnelle et constitutionnelle au Tchad, le Premier ministre a demandé hier soir aux partis politiques et à la société civile de participer à un comité de préparation. Une partie de l'opposition a rejeté cette proposition, Eric Manirakiza.
Le Premier ministre Albert Paimi Padake a souhaité la participation de toutes les sensibilités politiques et sociales. Il a demandé à la majorité présidentielle de proposer 20 personnes, au parti de l'opposition 20 personnes et la société civile 10 personnes pour constituer un comité d'organisation. Ce comité disposera de 45 jours pour préparer le forum qui portera sur les réformes institutionnelles, notamment une révision de la Constitution. L'ex-candidat à la présidentielle Salé Kebzabo, à la tête du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, a immédiatement dénoncé cette initiative et refusé toute participation. D'après le projet de nouvelle constitution, le chef de l'État serait élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois.
L'écrivain d'origine camerounaise Patrice Nganang a été écroué à la prison centrale de Yaoundé et doit comparaître aujourd'hui pour apologie de crimes et menaces. Le point avec Dilidico.
En garde à vue depuis le 6 décembre, Patrice Nganang a été envoyé en prison la nuit dernière. Son avocat, Maître Emmanuel Sim, précise qu'il doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. L'avocat précise qu'il n'a pas eu accès à son dossier, mais ajoute que Nganan est poursuivi pour apologie de crime, outrage à corps constitué et menace. Les soupçons d'outrage au président de la République et de faux et usage de faux retenus par la police ont été abandonnés. Monsieur Nganan a été interpellé le 6 décembre à Douala alors qu'il devait embarquer pour Harare. Le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari avait expliqué que l'écrivain avait proféré le 3 décembre des menaces contre le président Paul Biya sur le réseau social Facebook.
Au Togo, la coalition de l'opposition qui manifeste depuis plus de 3 mois a invité hier les chefs d'État au prochain sommet de la CDAO à demander au président Faure Gnassingbé d'accepter l'alternance. Ce sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient samedi à Abuja. La coalition a lancé son appel dans une déclaration publiée à l'issue d'une deuxième journée consécutive de manifestations dans les rues de Lomé.
Au Libéria, soutien d'un grand parti d'opposition à George Weah pour le second tour de la présidentielle. L'ancienne vedette du football doit affronter dans ce round du 26 décembre Joseph Boakai, le vice-président sortant. Raissa Girondin. Le Liberty Party a annoncé hier son soutien à George Weah dans la course à la présidence. Un parti dont le candidat Charles Bromskin est arrivé troisième lors du premier tour. Le second tour était initialement prévu le 7 novembre, mais avait été reporté sine die par la Cour suprême. La haute cour avait ordonné à la commission électorale de statuer d'abord sur les recours de Charles Bromskin, auquel s'était joint Boakai. La cour a finalement rejeté ces recours et donné son feu vert pour le second tour, à condition que les listes électorales soient révisées. Weah et Boakai vont donc s'affronter le 26 décembre et ce duel se jouera essentiellement sur les alliances.
Les gouverneurs des États nigérians ont décidé hier de verser au gouvernement fédéral $1 milliard provenant des excédents de recettes pétrolières afin de financer la lutte contre les islamistes de Boko Haram, a annoncé le gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obaseki. Selon les comptes de la nation, les excédents de recettes pétrolières du pays s'élèvent au total à $2,3 milliards.
Les États-Unis suspendent leur aide à une bonne partie des forces armées somaliennes à cause de préoccupations liées à la corruption, selon des sources contactées par la Voix de l'Amérique. Cette décision reflète l'incapacité continue des militaires somaliens à dire ce qu'il était advenu de vivres, carburant, armes et autres articles fournis par Washington. Un officiel du département d'État a dit que cette pause est nécessaire pour assurer que l'assistance américaine est utilisée efficacement et pour les raisons indiquées.
L'ONU a renouvelé hier la mission de sa force de casque bleu au Soudan du Sud, mais c'est pour seulement 3 mois, afin de pousser à une relance du processus de paix et finir une évaluation de sa présence dans ce pays en guerre. Les 15 membres du Conseil restent profondément préoccupés par les violences dans le pays, souligne une déclaration adoptée par consensus. Plusieurs millions de personnes sont toujours dépendantes d'une aide humanitaire. 4 millions sont déplacés, déplore le Conseil de sécurité dans ce texte.
Le parti au pouvoir au Zimbabwe tient son congrès aujourd'hui sous la présidence du nouvel homme fort du pays, Emmerson Mnangagwa, qui veut profiter de la réunion pour consolider son autorité 3 semaines après la chute de Robert Mugabe. Robert Mugabe, qui semblait indéboulonnable après 37 années passées à la tête du pays, a démissionné, on le rappelle, le 21 novembre après un coup de force militaire, mais son parti, la ZANU-PF, détient toujours le pouvoir. M. Mnangagwa, qui a remplacé le nonagénaire à la tête de l'État, est un pur produit de la formation politique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le missile tiré depuis le Yémen sur l'Arabie Saoudite par des rebelles houthis le mois dernier a été fabriqué en Iran, pays qui appuie ces rebelles chiites. C'est ce qu'a déclaré hier l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Précision de John Linden.
Derrière moi se trouvent les débris récupérés du missile tiré par des combattants houthis du Yémen sur l'Arabie Saoudite, a assuré la diplomate américaine qui s'exprimait sur une base militaire américaine. Nikki Haley a expliqué que ce missile a été fabriqué en Iran avant d'être envoyé à des rebelles houthis au Yémen. Une déclaration qui a immédiatement provoqué un démenti catégorique de Téhéran, qui a dénoncé par la voix de sa mission aux Nations Unies des preuves fabriquées de toutes pièces par Washington. Nikki Haley a précisé que les débris ont été récupérés par l'Arabie Saoudite et prêtés aux États-Unis, mais elle n'a pas pu dire si chaque morceau du missile présenté a été ramassé à la même date. La diplomate américaine n'a par ailleurs pas manqué de préciser que l'Iran a notamment violé la résolution 2231 des Nations Unies qui englobe l'accord nucléaire interdisant à l'Iran toute vente de missiles balistiques pendant 5 ans.
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont discuté hier du programme nucléaire nord-coréen lors d'une conversation téléphonique initiée par Washington, selon le Kremlin. M. Poutine avait salué quelques heures plus tôt, lors de sa conférence de presse annuelle, la prise de conscience des États-Unis dans le dossier nord-coréen, Washington s'étant dit prêt à entamer des discussions sans conditions préalables avec Pyongyang.
Les dirigeants de l'Union européenne ont donné hier leur feu vert à la prolongation pour 6 mois des lourdes sanctions économiques décrétées il y a 3 ans et demi contre la Russie pour son implication dans le conflit ukrainien. Pour le porte-parole du président du Conseil européen Donald Tusk, cela va continuer en raison d'une mise en œuvre insuffisante des accords de Minsk.
L'émissaire de l'ONU sur la Syrie a accusé hier le gouvernement de Damas d'avoir fait capoter les pourparlers de Genève en refusant de dialoguer avec l'opposition. Staffan de Mistura a parlé, je cite, « d'occasion en or manquée à l'issue du 8e cycle de négociations à Genève ». Le diplomate avait pourtant assuré à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il voulait cette fois de réelles négociations entre les délégations du gouvernement et de l'opposition unifiées. Depuis le début du processus de Genève en 2016, la délégation gouvernementale syrienne a toujours refusé de parler directement aux représentants de l'opposition syrienne, n'acceptant de discuter qu'avec le médiateur. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Sénégal, le gouvernement a besoin de près de 12 milliards de dollars pour exécuter son plan triennal d'investissement 2018-2020. Ceci permettra de mettre en œuvre plus de 715 projets répartis dans les 14 régions du Sénégal. Dakar compte financer son budget avec près de 6 milliards de dollars de fonds propres. Le reste proviendra de ressources externes non encore connues. Le Niger a levé 23 milliards de dollars de fonds publics et privés à Paris pour doper sa croissance et garantir sa sécurité. Les secteurs prioritaires sont notamment l'énergie, les routes, les aéroports et le chemin de fer. Le Cameroun et le Tchad vont construire un pont de 620 mètres sur le fleuve Logone, représentant une frontière naturelle entre les deux pays. Ce pont s'étendra entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Les travaux vont coûter 77 millions de dollars et durer 4 ans. Cette infrastructure transfrontalière permettra de booster les échanges entre ces deux pays d'Afrique centrale, d'après la BAD qui finance ce projet. Enfin, le plus grand constructeur et gestionnaire d'aéroports au monde, le géant turc TAV, veut exploiter 4 aéroports au Nigeria à travers des contrats de concession. Il s'agit des aéroports de Lagos, d'Abuja, de Kano et de Port Harcourt. TAV exploite déjà plus de 17 aéroports dans le monde. Des entreprises du Royaume-Uni, d'Allemagne et même du Nigeria ont également manifesté leur intérêt pour la gestion de ces 4 aéroports.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ibenge est maintenu à la tête des Léopards de la RDC.
Éliminé avec la République démocratique du Congo de la Coupe du Monde 2018, Florent Ibenge garde néanmoins la confiance de ses dirigeants. Constant Omari, le président de la FECAFOOT, avait confié à VOA Afrique qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait se séparer de son sélectionneur. Chez nos confrères de Jeune Afrique, Florent Ibenge affirme que c'est une marque de confiance, qu'il ne pouvait pas refuser et a donc accepté de continuer son travail de sélectionneur. Prochain objectif pour celui qui est toujours l'entraîneur de l'AS Vita Club, qualifié la RDC pour la CAN 2019.
Le Kenya en finale, coupe CECAFA.
Le pays organisateur a battu le Burundi hier en demi-finale en prolongation 1-0. Les Kenyans affronteront l'Ouganda ou Zanzibar en finale. Ces deux pays qui jouent aujourd'hui dans l'autre demi-finale.
En France, Monaco peut prendre la deuxième place ce soir.
Oui, le champion en titre à la lutte avec Lyon et Marseille pour la deuxième place de la Ligue 1 peut prendre de l'avance en cas de succès ce soir contre Saint-Etienne. L'intouchable Paris Saint-Germain, déjà sacré champion d'automne, avant de se rendre à Rennes demain. Et puis dimanche, le choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Detroit Pistons et Atlanta Hawks, 105 à 91. New York Knicks et Brooklyn Nets, 111 à 104. LA Lakers et Cleveland Cavaliers, 112-121. Sacramento Kings et Minnesota Timberwolves, 96-119.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Silouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, exemple digne d'émulation d'un ancien migrant rentré du Moyen-Orient, il s'agit de celui du jeune Alain Christian Moïna, qui, 7 mois après son retour au pays, est parvenu sans financement à non seulement s'auto-employer, mais aussi à créer des emplois pour d'autres jeunes, et ce, donc, comme je l'ai dit, sans financement. Son idée est simple, exploiter les vertus thérapeutiques des sèves, de certains arbres, plantes, racines et autres feuilles de la nature. Sur cette base, il fabrique des produits de beauté, de santé et des boissons diététiques. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, nous en dit plus.
Je me suis retrouvé dans les cuisines des hôtels en déphasage avec le diplôme que je suis parti avec. Et à un moment donné, j'ai décidé de venir au Cameroun. Je suis arrivé sur Douala totalement pauvre et j'ai pris la résolution de me battre aujourd'hui.
C'est ainsi que l'expérience d'Alain Christian Bouna aux Émirats Arabes Unis, en Inde et en Iran comme candidat à l'immigration a tourné court. Doctorant en sciences de gestion et création des entreprises à son départ du Cameroun, ce jeune, de retour au Bercail en avril 2017, est parvenu à se trouver une place au soleil. Alain Christian Bouina.
Puisque je n'avais pas le capital, je n'avais que la compétence et le potentiel qui étaient en moi, je me suis mis à apprendre les choses de la nature, les écorces, les feuilles, des racines pour soigner des gens et commencer à me faire un peu d'argent.
Nous avons retrouvé dans ce village environ 80% des essences que nous exploitons. Ce village, c'est une richesse, c'est le point focal.
Dans le village Biaga, non loin de Bati, à 1h30 de route à partir de Yaoundé, Alain Christian a obtenu une forêt communautaire pour sa reconversion au Cameroun. Jean Assé, représentant du chef de village de Biaga.
Ils sont venus et ils m'ont fait comprendre qu'ils vont faire des petites recherches ici pour la santé des gens. Je vais souvent mal au rein. Bon, ils m'ont donné ce produit. Après une semaine, j'étais à l'aise. J'ai contacté tout mon village. Ces gens-là peuvent nous faire du bien. Je suis allé voir le chef était d'accord.
Dans les champs du village Biaga, du maïs, du piment, du poivre et des arbres fruitiers. Les jeunes du village y cultivent et vendent leurs récoltes. L'ancien migrant Alain Christian, lui, recueille plutôt les valeurs phytosanitaires des feuilles, des racines et plantes des 10 champs qui constituent la matière première pour la fabrication de produits de santé et boissons diététiques. L'activité champêtre emploie même déjà les jeunes du village depuis juin 2017, à l'instar du couple Messi.
Dans le cadre du projet, je livre les sèves et les feuilles avec lesquelles ils travaillent. On avait commencé avec un bidon. Aujourd'hui, on livre dans les 126 litres par semaine. Pour un début, on s'assoit pour les besoins de la famille.
C'est notre champ, moi et mon mari. On fait dans la papaye solo. Ça, c'est le deuxième champ.
Alain Christian Bouina a créé une association dénommée le Fonds social pour l'emploi. Elle a obtenu l'autorisation de fonctionnement en octobre dernier et emploie directement 8 personnes. Les souvenirs du péril migratoire de Alain Christian Bouina sont désormais loin derrière lui.
Aujourd'hui, je ne peux pas le regretter. La décision d'être revenu au Cameroun, aujourd'hui, je peux me prendre en charge, prendre d'autres personnes en charge et mettre ceux qui sont autour de moi à l'aise.
Yaoundé, Emmanuel Julta, VOA Afrique.
Les Béninois font aussi l'expérience de l'esclavage en Libye. Mohamed Babio, moins de la trentaine, pensait passer par ce pays pour atteindre l'Italie afin de réaliser son rêve, être un footballeur professionnel. Un rêve qui a tourné au cauchemar, il a passé une année soumis à des travaux forcés et a été maltraité dans les camps libyens. Mohamed Babio a même perdu son jeune frère, criblé de balles pour avoir voulu s'enfuir. Son histoire dans ce reportage de Ginette Fleur à Dandé.
Son périple a commencé en décembre 2015 lorsqu'il a voulu fuir la misère. Mohamed Babio a décidé de tenter l'aventure au-delà des frontières béninoises. Il a atteint l'Algérie avec son jeune frère et pendant quelques mois, il mène une vie heureuse et se font de l'argent, suffisamment en tout cas pour revenir au pays. Mais ils ont décidé de donner plus de piment à leur nouvelle vie de pèlerin sur les rives européennes. L'Italie fut leur premier choix. Ils ont eu le numéro d'un passeur de nationalité béninoise qui leur a promis l'entrée en Italie pour 750 000 francs CFA par tête. Ils y ont englouti une partie de ce qu'ils ont gagné en Algérie pour une aventure qui prendra fin en Thaïlande dans les conditions les plus difficiles.
Ils nous ont enfermés dans une villa. On était 36, non? Jusqu'à le soir, je trouve 56 personnes. On ne comprend rien encore parce qu'on n'a pas droit de téléphone ni rien. On nous enferme dedans comme des témoins que l'on ferme tes moutons. Vous savez, couscous là, c'est ça qu'on délaie dedans. Tu fais 3 ou 2 jours, tu ne trouves même pas quoi il faut manger.
Des femmes enceintes battues et violées qui rendaient l'âme ne pouvant tenir. Il aura connu 6 changements de point de détention et de geôlier. Séparé de son frère, il aura de ses nouvelles qu'à travers des photos de lui crébelle de balles. En quittant l'Algérie, il était loin d'imaginer ce qu'il attendait en Libye.
On vous amène à quelque part, il y a 10 ou 20 militaires. Il faut savoir qu'ils vont coucher avec la fille tous. Ils seront en train de pleurer jusqu'à toute la nuit. Les nouvelles de mon frère que moi j'ai eu, il est décidé là-bas. On nous frappait à moi-même. Avec des tuyaux là, correctement.
À une conférence de presse sur la situation en Libye, l'ambassadeur de la Libye, Prel Bene, s'est prononcé sur la colère du peuple libyen face aux accusations qui, selon lui, ne tiennent pas la route. À la question de savoir ce qu'il pense de ce qu'a vécu le Béninois, il prétend que c'est une invention et que rien de tel ne se passe en Libye.
Alors, il invente des espoirs pour convaincre la presse. Pourtant, les rumeurs circulent vite à travers l'Afrique. Si la torture existait en Libye, comment se fait-il que ceux-ci viennent en Libye en se portant la soif et la faim pour y arriver?
Fidel Kiton est le directeur de Amnesty International Bénin. Pour lui, l'institution fait ce qu'elle peut dans ce cas, mais souffre de l'absence d'une volonté politique pour aller jusqu'au bout.
Nous avons un service de renseignement, un mécanisme diplomatique. C'est à eux de pouvoir creuser ces indices que nous leur donnons et de pouvoir faire l'enquête.
Mohamed Babion n'aura pas appris en tout cas de la tragédie vécue en Libye. Devant l'étendue de la misère depuis qu'il est rentré, il pense saisir l'opportunité si le chemin d'une autre aventure s'ouvrait devant lui.
La souffrance que je vais endurer revenir et tomber dans quoi j'ai quitté encore, vaut mieux que j'aille mourir là-bas.
L'État béninois pense réorganiser autrement les choses pour que les jeunes ne soient pas obligés de s'offrir en victime expiatoire à la recherche du mieux-être. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Côte d'Ivoire, c'est désormais sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook que s'engage le débat sociopolitique. Sur le forum de discussion intitulé « Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire » (ODCI), des milliers d'Ivoiriens vivant au pays ou à l'étranger débattent quotidiennement des sujets d'actualité. Sur ODCI, tout le monde peut dire ce qu'il pense et échanger avec des adversaires politiques et quelquefois les esprits s'échauffent. ODCI n'a ni siège ni bureau. Tout se passe derrière son clavier ou sur son téléphone avec sa vraie identité ou derrière un avatar. Reportage Guy Aimé Ebloti, récit Gabi Dorsil.
Ils sont des milliers à engager le débat sur la vie politique et la gestion quotidienne des dirigeants. L'Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire leur sert d'arbre à palabres. Créé en 2009 sur Facebook, le groupe ODCI compte 114 000 membres et agit comme une plateforme d'échange pour Monsieur Tout-le-Monde.
Nous, ce qu'on promeut, c'est en fait qu'on peut échanger des opinions sans s'insulter. Sinon, je pense que les Ivoiriens eux-mêmes là, sont des gens gays, qui aiment aller au stade, qui aiment aller dans les maquis, qui aiment beaucoup s'amuser. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui créent des petites niches pour des profits que je ne citerai pas, et qui créent cette animosité qu'ils entretiennent à travers pas mal de médias que je ne citerai pas non plus.
Sur ODCI, on parle de tout et de tout le monde avec des propos parfois virulents, voire injurieux.
En 2015, j'avais fait une publication pour porter une petite pique à l'endroit du président Alassane Ouattara. Et j'ai eu droit à toute une flopée de propos déplacés, de menaces même, une box comme en commentaire. Ça m'a fait un peu peur quand même. Donc j'ai décidé de sortir du groupe parce qu'apparemment je n'étais pas assez prêt pour ça. Et je suis revenu à la faveur des législatives de 2016. Voilà, parce que j'avais vu une publication d'une candidate qui disait qu'elle avait gagné en dehors même du thème légal.
14 administrateurs et modérateurs essaient de créer les conditions d'un débat sain. Le forum fait désormais un live et ouvre ses portes aux hommes politiques.
Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de barrière.
tout le monde, avec un minimum de règles, bien sûr, tout le monde s'exprime. On s'exprime avec nos fautes d'orthographe, avec tout ce qui s'ensuit. Mais tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire parlent sur des séries, disent ce qu'ils pensent de ce qui nous dirige, de la politique sociale et tout. Donc ODCI participe à l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire.
À l'approche de la présidentielle de 2020, la politique fiction à la sauce ivoirienne tourne à plein régime dans les rues d'Abidjan. Évidemment, sur ODCI, les différents candidats ont déjà lancé la campagne électorale.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Ici aux États-Unis, la Commission fédérale des communications s'est prononcée pour la fin du principe de neutralité du net qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à traiter tous les contenus en ligne de la même manière. Arzuma Compaoré a joint Rissa Dao, expert en cybersécurité, pour en savoir plus.
D'abord, il faut dire que cette loi qui avait été mise en place par l'administration Obama consistait à faire en sorte que les fournisseurs d'accès à Internet traitaient de façon équitable tous les services dont les citoyens avaient accès à travers Internet. Avec la levée de cette loi aujourd'hui, une société de télécommunications qui offre l'accès à Internet, qui vous permet d'accéder à des sites web ou à des services web, peuvent naturellement demander que vous soyez citoyen ou une société qui offre des services en ligne. Alors on peut vous demander donc de payer des frais additionnels pour que votre service puisse être accédé plus rapidement et votre trafic peut être fluide. C'est comme une autoroute et vous permettez à plusieurs personnes d'accéder à l'autoroute. Si moi je veux aller plus vite que vous et la rue est congestionnée, qu'est-ce que je fais? Je vais dire ok, est-ce que vous pouvez créer un espace pour moi et je vais payer plus. C'est comme les express lanes. C'est-à-dire, vous payez, vous avez un péage sur le même boulevard, mais une partie du boulevard est réservée à ceux qui veulent payer. On ne dit pas forcément que les sociétés de télécommunications ou les fournisseurs d'accès à l'Internet feront ce genre de propositions ou ce genre de plans, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce genre de situations seront parfaitement légales, ce qui ne l'était pas avant.
Est-ce qu'on peut imaginer que ça va être une option de beaucoup de pays dans les jours ou dans les années à venir?
L'Europe et l'Amérique ont des visions qui sont fondamentalement différentes. Du fait que l'Amérique laisse l'initiative au secteur privé et c'est quand ça ne fonctionne pas que l'État intervient. L'Europe, les États prennent le devant et légifèrent et le secteur privé maintenant va peut-être réagir pour essayer de rééquilibrer. Le fait de dire que parce que cette notion de la neutralité de l'Internet n'existe plus aux États-Unis et que ce sera la même chose à travers le monde. Certainement, certains pays le feront, mais je doute fort que cette notion-là, ce standard-là, puisse être appliqué partout.
Et quelle est la place de l'Afrique dans tout ça?
Eh bien, en Afrique, on regarde, évidemment, on va subir tout ce que les autres décideront. L'Afrique doit également faire partie donc de cette discussion. C'est très important que les Africains en Afrique, on le comprenne, et qu'on essaie de s'engager, au lieu de t'attendre et d'encore de jouer les obligés, on sera obligé de le faire de toute façon. Il faut juste qu'on comprenne tôt et qu'on s'engage en même temps que les autres.
Drissa Dao, expert en cybersécurité, fondateur de la société Cyberroute Technologies.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du préservatif féminin, un étui en plastique utilisable par les femmes lors des rapports sexuels.
Moyen de prévention des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles, ce préservatif reste peu utilisé et encore mal perçu en Afrique.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Jonathan Kaunda du programme de lutte contre le sida en RDC. Il nous expliquera comment utiliser ce préservatif et comment promouvoir son usage par les femmes.
Nous écouterons aussi le témoignage de Patrick Lumumba, pharmacien à Lubumbashi en RDC. Il nous dira pourquoi ce préservatif est rare et mal connu.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.